Ma première invitée vous a sans doute fait saluer le soleil grâce à ses enseignements du yoga ou appris à méditer. Et je suis convaincue qu'elle saura nous dire en quoi ça peut soigner notre anxiété. Nicole Bordelot démystifie les enseignements bouddhistes de l'impermanence des choses depuis très longtemps. Et tout passe, comment vivre les changements avec sérénité et son septième livre. Bonjour Nicole.
Bonjour Chantal.
Quel plaisir de vous recevoir.
Ben merci de cette belle invitation, puis le plaisir est partagé.
Vous dites que ce livre est dédié à tous ceux qui accueillent le chaos en eux. Comment accueillir le chaos en soi, Nicole?
Ah, mais c'est Nietzsche, le grand philosophe, qui disait que toute création émerge du chaos. Et il y a même dans la Genèse une phrase qui dit que la terre n'était que vide et chaos et que de ce vide et de ce chaos a émergé la création. Lorsque tout s'effondre, la seule bonne nouvelle, là, lorsque notre vie tombe en mille et une miettes, c'est que l'heureuse nouvelle qui en reste, et c'est probablement la seule, c'est que pour se recréer, pour se repenser, c'est à nous cette fois d'en choisir les morceaux. Parfois, on vit une existence qui nous a été imposée par notre éducation, les religions, notre système familial, nos conditionnements, nos différents héritages. Et quand tout ça s'effondre, que ce soit à la suite d'une maladie, d'un divorce ou même d'une pandémie, eh bien, on peut choisir ce qui nous ressemble davantage et laisser derrière ce qui ne nous ressemble plus. Mais pendant un certain temps, il faut faire la paix avec le fait que tout va être bordélique, tout va être chaotique, on va perdre ses repères. Mais c'est souvent dans ce chaos que va émerger une belle transformation.
Mais vous parlez justement de pandémie et comme votre livre est une récente parution, vous abordez évidemment l'influence de la COVID dans nos vies et vous dites qu'elle nous invite à bâtir une société nouvelle. Racontez.
Oui, c'est intéressant parce qu'au début de la pandémie, au début du confinement, nombreux étions nous à dire « Ah, j'ai hâte de retourner à la normale, que la normalité revienne ». Mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment normal comment nous vivions avant? Comment nous surconsommions? Comment nous étions dans la performance, l'hyperactivité, la rentabilité, l'efficacité à tout prix? Au prix même d'y perdre notre santé physique, mentale, parce qu'on travaillait d'innombrables heures, puis on s'agitait continuellement mentalement et physiquement, puis on a été obligé de se déposer. Puis la plupart d'entre nous, on était confinés et on s'est retrouvés en plein cœur de nos vies et on a réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui étaient essentielles, qu'on avait mis de côté. Puis je pense que cette pandémie-là va être capable de nous enseigner la différence entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est superficiel, ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, il y a de belles et grandes leçons à tirer de cette épreuve-là parce que on y perd tous beaucoup et si on donne pas un sens à ce passage-là, bien ça va nous avoir coûté très très cher en perte humaine, en perte économique, pour rien. Alors c'est pour ça qu'il faut donner un sens à cette traversée-là de la pandémie.
Bien, vous parlez justement de cette efficacité-là à tout crin et il y a une section de votre livre qui m'est allée droit en plein cœur, la différence entre la concentration et l'attention. Et à quel point l'hypervigilance nous mène à l'épuisement. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, et c'est une des premières choses que l'on apprend lorsqu'on commence à méditer, c'est de sortir de l'état de concentration extrême dans lequel nous sommes conditionnés en raison de la technologie, de nos écrans. Mais on nous enseigne aussi qu'il nous faut nous concentrer fermement pour apprendre, pour exécuter, pour être dans la performance. Puis, depuis environ 2 décennies, eh bien, il y a une autre partie de notre cerveau, qui est celle de la pleine attention, qui a été mise de côté en faveur, justement, des écrans du monde virtuel. Et les neuroscientifiques le prouvent maintenant. Nous sommes en état d'hypervigilance parce que nous sommes continuellement en hyperconcentration. Et ça a un effet nocif sur notre santé mentale parce qu'après 90 minutes, notre concentration naturellement décline. Alors, il faut faire de grands efforts pour la préserver, mais cet effort-là, c'est, ça vient de notre énergie, là. Donc, jour après jour, on devient plus épuisé, plus distrait, plus nerveux, plus réactif, parce qu'on oublie de passer dans l'autre mode qui est le mode attention. C'est comme lorsqu'on on met nos ordinateurs sur pause, Chantal.
Oui.
Si on les fait fonctionner toute la journée, ben, la batterie va s'épuiser. Alors, c'est sensiblement la même chose pour notre cerveau. Il faut être capable de passer dans le mode attentionnel. Puis c'est très simple, tout le monde peut. Je l'explique dans le livre, là. Tout le monde, peu importe notre âge, peut y accéder.
Mais vous donnez d'ailleurs un truc que je trouve vraiment intéressant. Nous sommes incités à nous laver les mains abondamment, donc en cette COVID-là. Et vous dites justement que ça peut être un bon moment de profiter du lavage des mains pour pratiquer la pleine conscience.
Oui, parce que c'est un geste qu'on fait mécaniquement, sans véritablement prêter attention à ce que l'on fait, parce qu'on est dans nos têtes, on est anxieux, on est nerveux. Il y a la fatigue pandémique qui s'est installée aussi, qui crée une foule de symptômes. Mais puisqu'on doit le faire, puis qu'on le fait plusieurs fois par jour, beaucoup plus fréquemment qu'auparavant, pourquoi ne pas profiter de ces 20 secondes pour passer au mode attentionnel, pour justement entrer dans notre corps, vérifier si on est tendu, si notre esprit est agité, vérifier si notre corps est courbé, s'il y a besoin de prendre l'air, prendre des nouvelles de soi à travers ce petit 20 secondes-là, tout en se lavant les mains. Ben ça peut paraître banal, là, mais ça fait une grande différence au fil des jours et au fil des semaines.
J'aime cette phrase-là, prendre des nouvelles de soi. C'est bon?
Oui, c'est important. Parce que ces jours-ci, nombreux sommes-nous à prendre soin de nos parents vieillissants, des plus vulnérables, de ceux qui sont en première ligne, des enfants, des adolescents, bien entendu. Puis c'est important de le faire, mais beaucoup s'oublient à travers tout cela. Et ces moments-là, si brefs soient-ils, où on fait un retour sur soi, peuvent vraiment être une planche de salut là, pour notre santé physique et mentale.
Il y a une amie qui vous a déjà demandé si on devient plus sage à 60 ans. Et vous avez une jolie formule qui s'appelle 63 printemps à sentir les lilas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Ah, mais je lui dis, hein, elle me demandait si on devient plus patiente, plus tolérante, tout ça. Puis je lui dis, mais ça dépend. Oui. Puis est-ce qu'on devient plus sage? Ben, ça dépend. Puis il n'y a rien qui est certain. Tout varie. Mais cette magnifique formule-là de sentir les lilas, elle n'est pas de moi. Elle est de Françoise Hardy, qui disait, c'est peut-être mon dernier printemps à sentir les lilas. Je ne sais pas combien de temps il me reste à sentir les lilas. C'est une fois par an, là, l'arôme des lilas. Et moi, cette formule-là de 63 printemps, je l'ai jumelée à la sienne, puis ça fait 63 printemps, 63 fois que j'ai pu sentir les lilas. Donc, je trouve que c'est une belle façon de nommer ça, le passage du temps.
Bien, c'est l'impermanence des choses et de le vivre pleinement, parce qu'effectivement, le lilas ne fleurit qu'un temps.
Oui, puis si on le manque, c'est fini. Il faut attendre encore une autre année, au prochain printemps, et espérer qu'on sera là. Donc, c'est essentiel. Et peut-être que le but de cette pandémie-là, dans son sens le plus profond, c'est aussi de nous enseigner à ne pas vivre dans l'attente de jours meilleurs, mais d'essayer de faire le meilleur que l'on peut avec ce que l'on a présentement.
Nicole, j'ai lu votre livre sur un banc de parc devant la rivière Richelieu.
Oh, c'est beau.
Oui, c'était magnifique et justement pour moi, l'eau symbolise là, ce tout passe parce qu'on c'est toujours en circulation. Vous citez Gilles Vigneault dans votre livre. Qu'est-ce que ça a dit, cette citation-là?
Bien, cette citation-là, pour moi, je l'ai découverte par hasard là, parce qu'il y avait plusieurs citations que je méditais, que je laissais résonner en moi depuis quelque temps. Et la façon dont M. Vigneault parle de la continuité, de ce qui reste aussi, de ce qui passe, je trouve que dans ses mots, c'est tellement plus élogieux que les miens. Donc, c'est une très belle formule pour parler de l'impermanence et c'est grandement poétique.
Ben, on va écouter les mots de Gilles Vigneault, une magnifique chanson que je vous offre « Pendant que » de Gilles Vigneault. C'est joli, n'est-ce pas?
C'est grandiose, c'est magnifique. Et à quelque part, il nous dit, seul l'amour demeure éternel. Et si vous me permettez,
oui.
Monsieur Vigneault, moi, je trouve qu'il faut l'écouter les yeux fermés pour bien, bien, bien l'entendre. Et après avoir lu ces mots aussi, peut-être les laisser résonner dans le silence. Puis cette citation, Chantal, à laquelle vous faisiez référence, si vous me permettez, j'aimerais l'offrir aux auditeurs aussi.
Oui.
Parce qu'il dit, conscient de la continuité du mot « changement », je sais que je ne suis déjà plus celui qui écrit ce mot conscient, mais que ce mot seul sera ma permanence.
Oh. Ah, Nicole, je suis entrée en état méditatif en vous écoutant.
Oh, mais ce sont ces mots, hein, ce sont ces mots de celui qui les a médités, qui les a respirés, qui les a longuement vécus. Il a l'âge très, très noble,
oui.
M. Vigneault, qui fait que ça résonne en nous.
Absolument. Tout à l'heure, vous parliez justement des 63 printemps à sentir les lilas. Et ma sœur Marie-Claude, elle a ce rituel-là où année après année, elle prend une photo de ses enfants devant le lilas en fleurs. Et quand elle a déménagé, le premier arbuste qu'elle a planté est un lilas.
Oh.
Et elle me pose une question pour vous. En fait, j'ai des questions du public parce que j'ai publié sur ma page Facebook que nous étions pour avoir une conversation, vous et moi, et j'ai trois personnes qui ont des questions pour vous. Alors, je commence par celle de ma sœur, Marie-Claude. Elle dit qu'elle vous a écrit pour savoir si vous ferez un jour une application de méditation de type petit bambou.
Oui.
Oui.
Ah, mais je dis oui, mais je me rappelle de cette question-là. Je ne sais pas si elle venait particulièrement de Marie-Claude, là. Quand je reçois cette question-là, je me dis, mais je ne sais pas si ça pourrait être utile. Il y en a tellement, et c'est peut-être dans cette ligne de pensée-là, Chantal, où nous avons lancé la série Balado, justement pour être capable d'offrir gratuitement aux gens de courtes méditations, de courtes réflexions. Ça s'appelle très originalement Nicole Bordelot en Balado. C'est disponible sur tous les portails gratuitement. Puis je pense qu'à travers ces outils-là, bien, j'arrive peut-être un peu à partager ce qu'une application pourrait faire.
Excellent. Alors, Marie-Claude, sois
merci,
informée.
Merci, Marie-Claude. Oui, merci.
On a, au fil du temps, un radio-roman tous les mois avec les deux Louise qui sont âgées autour de 70 et autour de 80. Et Louise Baillargeon vous demandait de donner des exemples concrets de la notion d'impermanence.
Oh mon Dieu, nous en sommes entourés. On se lève le matin, puis on peut se lever de belle humeur en après-midi, avoir un vague à l'âme, en soirée vivre une autre émotion. Nos états d'âme sont impermanents, sont transitoires. On n'a qu'à se regarder dans le miroir, la personne que nous sommes intérieurement et ce que nous voyons dans la glace. Parfois, ça ne concorde pas parce que l'impermanence de la forme physique que l'on habite change continuellement. Le jour cède place à la nuit. Il y a des amitiés qui deviennent des amours. Il y a des amours qui deviennent des amitiés. L'impermanence touche tout ce qui existe, tout ce qui vit. Et c'est la grande loi de l'univers. C'est la mouvance de la vie. Et c'est comme cela que tout se recrée. Et c'est d'elle que vient le chaos également. Donc, il y a d'innombrables preuves de l'impermanence tout autour de nous et en nous.
Merci. Et la troisième question, elle vient de mon ami Jean-Benoît Rainville qui vous a écrit, je crois, échangé quelques mots. Il m'a dit,
oui.
Tu verras, elle est charmante.
Ah,
et je lui donne raison. Donc, sa question est, pour certaines personnes, la méditation peut-elle remplacer la psychothérapie?
Ce n'est pas son but. Elle peut être complémentaire dans le sens que méditer, c'est s'asseoir avec soi, c'est apprendre à se comprendre et à se connaître. Moi, la psychothérapie est un outil pour faire un retour en arrière sur des traumatismes. C'est un des volets de la psychothérapie pour être capable d'analyser, de réfléchir sur différentes situations, difficultés de notre existence. Alors que le but de méditer, c'est être avec ce qui est et de laisser passer ce qui souhaite partir. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour réfléchir. C'est quelque chose que l'on fait pour se donner la permission de s'incarner puis d'habiter pleinement. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais de là à croire que méditer peut être un outil pour guérir et pour soigner, moi, personnellement, je n'irai pas jusqu'à affirmer cela. Je pense que ça prend soin de notre santé mentale. C'est un outil extraordinaire pour nous apprendre à vivre le moment présent plus paisiblement. Mm-hmm. Lorsqu'il est temps de retourner dans le passé ou dans des traumatismes, la psychothérapie est probablement davantage un outil bénéfique.
Excellent, merci. Et moi, ma question, parce que je suis votre public également, vous savez, c'est une émission qui parle de sagesse intergénérationnelle, des transmissions aussi d'une génération à l'autre. Et il y a quelque chose qui m'a fascinée dans votre livre. Vous parlez que l'influence de l'écriture vous est venue à voir votre père.
Et mon grand-père.
Votre grand-père
moi,
aussi.
Je viens d'une famille où les hommes écrivaient. C'est rare, là, mais j'ai vu mon père s'asseoir et écrire dans ses journaux intimes. J'ai vu mon grand-père noter des états d'âme, des événements, des anecdotes dans des carnets. Et c'est moi qui ai repris là, dans notre famille. Mon frère et ma sœur n'écrivent pas de façon quotidienne comme moi, mais ça, moi, c'est venu de mon père et de mon grand-père, de coucher sur papier, c'est ça, des états d'âme, des idées, des réflexions.
Et le fait qu'il soit décédé quand même assez jeune, ça m'a frappée. Je pense qu'il avait 52 ans, qui est mon prochain âge.
Ah oui, oui.
Est-ce que ça a modulé peut-être cette notion-là d'être pleinement dans le moment présent comme une urgence de vivre?
Ah oui. À l'époque, je pense que le chagrin était si profond et mon père et moi, nous avions une relation qui était quand même conflictuelle. Mmh. Je pense que c'est plutôt d'avoir traversé 3 décennies de maladie qui m'a été mon plus grand enseignement. Mais lui, par la suite, parce que moi, je vais hériter de ses journaux personnels et ses carnets intimes. Oui, et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai publié une fiction qui s'appelle « S'aimer malgré tout », où justement la réalité rejoint la fiction où l'héroïne va trouver aussi des carnets de son père. Mais quand j'ai lu ces journaux personnels que ma mère m'a donnés en héritage, j'ai pu retirer l'étiquette papa et découvrir l'homme et l'être humain derrière cette étiquette. Et ça a été pour moi profondément guérissant comme expérience. Et ça m'a fait vraiment comprendre que tous les êtres humains, nous traversons là, des états d'âme et nous vivons des échecs, nous avons des peurs, des angoisses. Mais comment nous les canalisons, c'est différent pour chacun. Donc, ça a été un immense cadeau qu'il m'a laissé. Alors, j'encourage les gens à écrire.
Mais ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai fait un grand ménage de paperasse, de papier et autres. Et je me posais justement la question, quoi faire avec ces journaux intimes-là? S'il m'arrivait quelque chose, comment mes fils réagiraient à découvrir leur maman femme?
c'est tellement un bel héritage.
Mais ça fait, est-ce que c'est là qu'on devient justement adulte quand on peut voir ses parents comme ils ont été et non pas dans leur rôle uniquement de parents?
On devient profondément humain et on réalise qu'ils étaient humains eux aussi. Et il y a une vulnérabilité qui est transmise par l'écriture qui nous donne permission nous aussi d'être, permission nous aussi de tomber, permission de nous relever. Je trouve que de laisser des écrits, c'est un grand, grand souffle d'espoir, c'est un magnifique legs, un héritage immense pour qui sait le recevoir. Il y a des gens qui s'intéressent peut-être moins, mais il vient un moment où on s'assoit, on reconnaît l'écriture, on ressent l'énergie, puis il y a quelque chose qui se dévoile, puis on trouve toujours un mot, une phrase qui peut nous porter à travers de grandes difficultés.
Je vous écoutais avec permission et j'entendais l'une de vos méditations, permission de déposer bagage.
Oui. C'est ça. Il faut s'accorder à travers cette pandémie-là, Chantal, où nous perdons c'est lourd, là, les pertes en tant que vie humaine, les pertes économiques, les pertes de repères, les pertes d'identité. Il faut se donner permission, dans un moment si bref soit-il, chaque jour, pour déposer bagages, déposer la fatigue, déposer la peur, l'angoisse, le chagrin. Puis, comme si on arrivait d'un très, très long voyage, puis quelqu'un nous donnait permission de déposer bagages, puis on s'assoit là, on ferme les yeux quelques instants, puis on les lève au ciel, dépendant de ce qui nous inspire. Puis, on laisse le silence nous habiter, puis c'est petit, là, mais c'est à quelque part très grand aussi, ces moments-là.
Nicole, je vous remercie de tout cœur et on incite les gens à écouter votre balado. Nicole Bordelot, balado.
Merci beaucoup.
Au plaisir, au revoir.
Au plaisir, Chantal, au revoir.